mobilité durable. Ce balado sera animé par Géraldine Cadier-Mirales, Maya Saloum et Olivia Vu, toutes trois conseillères à la Coop Carbone. C'est un rendez-vous jeudi 11h.
CIBL 101.5 Montréal.
CIBL, au cœur de la musique.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ouais, cool, j'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
CIBL. 101, 101.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le jeudi 14 mars et ici Charline Carreau, votre animatrice pour la meilleure matinale de Montréal. Et aujourd'hui on reçoit l'humoriste Eric Pritch, suivi de Marianne Perron, la directrice artistique de l'Orchestre Symphonique de Montréal. Et pour finir, ce sera la chronique des Carrefours Jeunesse Emploi. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, Bixi va ajouter 1300 vélos à son arsenal. Les vélos libre-service de Montréal ont connu un record d'utilisation en 2023 et augmenteront en conséquence leur offre de 13%. Le comité exécutif de la ville a ainsi acté d'une dépense de 7 millions de dollars pour l'achat de ces vélos, ce qui portera le réseau à plus de 10 000 véhicules disponibles. Et ensuite, cette fin de semaine a lieu l'expo Manger Santé et Vivre Vert, qui regroupe divers exposants et conférenciers autour de l'alimentation saine, des alternatives écologiques et des services thérapeutiques. Vous pourrez y retrouver une dégustation de thé québécois, une conférence sur le lait ou encore des ateliers de réflexologie. Ça se passe donc au Palais des Congrès de Montréal de vendredi à dimanche. On continue sur CIBL avec l'entrevue de l'humoriste Eric Pritch. J'ai le plaisir de recevoir ce matin l'humoriste Eric Pritch pour parler d'humour et de société et revenir sur son parcours et son travail. Bonjour Eric, bon matin.
Bonjour, bon matin.
Comment on fait pour devenir humoriste, Eric?
Comment on fait? Ben, il n'y a pas juste une façon de le devenir. Je veux dire, il y a plein de façons. Je veux dire, mon parcours n'est pas très conventionnel. Mm-hmm. Les gens qui passent par l'école de l'humour, d'autres non. Moi, j'étais portier dans un comedy club, puis de fil en aiguille, je suis arrivé à être portier, voilà. Mm-hmm. À être humoriste, pardon. Voilà.
C'est pas la même chose. Ouais, t'es donc entré dans le milieu d'humour à 30 ans. Est-ce que c'était une reconversion ou un rêve qui s'accomplit au final?
Un rêve, je dirais pas un rêve, parce que je me permettais pas vraiment de rêver à ça. Une reconversion non plus, parce que je n'avais pas nécessairement une carrière établie. Avant de commencer à faire de l'humour, par contre, j'étais en attente pour faire mon cours en nursing. Donc, peut-être une redirection avant même d'avoir commencé. C'est ça, c'est pas vraiment... C'est juste une opportunité que
t'as saisie.
Exactement, que j'ai saisie.
Si ta carrière a décollé, c'est notamment à travers les réseaux sociaux. Il y a 10 ans, les réseaux n'étaient pourtant pas forcément la voie royale encore pour percer. Pourquoi avoir investi YouTube et pas la télé, par exemple, pour lancer ta carrière d'humoriste?
Ben parce que c'est difficile d'accéder à la télé tout de suite en partant. Je veux dire, c'est pas... C'est pas qui veut va à la télé. T'sais. Donc, il y a un processus. Il faut gravir les échelons. Il faut acquérir des crédits, si je peux dire, pour aller. Puis, je parle pas de point UDA. Là. Je parle de. Il faut vraiment que tu aies de la crédibilité pour arriver à la télé. Donc, je me suis dit, tant qu'à me plaindre que je vois pas des gens qui me ressemblent ou de voir mon opinion reflétée, l'Internet est accessible et justement là. Donc, je vais utiliser cette plateforme-là qui m'est accessible. Je vais prendre le plus accessible en fond.
En effet, tu dis que tu as commencé à travailler avec les réseaux parce que tu ne te voyais pas dans les médias. Donc, au lieu de quémander ta place, comme tu le dis, voilà. Tu es allé la chercher ailleurs, tout simplement. Les réseaux, ils représentent une opportunité immense pour ceux qui n'ont pas accès au circuit médiatique traditionnel.
100%, c'est une façon de se démarquer, c'est une façon de... Il y a une certaine liberté aussi là, qu'il y a sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas vraiment... Évidemment, il y a des règles, sauf que ces règles-là sont beaucoup moins régies par des publicitaires, chose qu'on voit des personnes qui vendent la publicité. Donc, chose qu'on voit beaucoup en télévision, tu sais. C'est pas qu'on peut pas rien dire, c'est que faut choisir comment le dire, puis on est, comment je peux dire?
Cadré?
Ben ouais, cadré. Il y a beaucoup plus une direction, donc, qui est établie. Donc, c'est beaucoup plus ouvert de faire ça sur le web qu'à la télé.
Tu ressens ça maintenant que tu vas dans les émissions de télé, ce cadrage?
100%. Ouais. 100%. Il y a des affaires qu'on ne peut pas dire à cause que ça va à l'encontre de certaines personnes qui achètent de la publicité sur le réseau ou des trucs comme ça. Donc, on ne faut pas froisser les gens qui vendent de la publicité. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Donc, je peux comprendre, tu sais. Sauf que sur le web, même si je vends de la publicité ou quoi que ce soit, ces mêmes gens-là, sur le web, ils ont une différente façon de penser. Mm-hmm. Ils se disent, ben, tu sais, tu parles à ton public. Ton public va comprendre qu'est-ce que tu veux dire. Ils vont comprendre le ton que tu utilises. Mm-hmm. Donc, vas-y, tu es carte blanche. C'est. Essentiellement, c'est que la télé fait de la télé pour monsieur, madame, tout le monde, en ne réalisant pas que monsieur, madame, tout le monde sont morts depuis un petit bout.
Exactement. Et en effet, tu as raconté la façon dont tu t'es construit plus jeune avec une absence de représentation dans les médias. Mm-hmm. Tu ne te voyais pas, on a commencé à le dire. Quel impact les images médiatiques ont sur les jeunes, selon ton expérience?
Ben pour moi, je trouve pas ça grave pour moi-même. Je veux dire, si je suis pas représenté, je trouvais pas ça nécessairement grave. J'allais le chercher ailleurs. Mm-hmm. C'est grave pour la culture ici. C'est dur pour la culture ici essentiellement. C'est dur pour la langue française. C'est dur pour moi. J'allais la chercher ailleurs. Tu sais, si je peux pas
aux États-Unis,
à 100%. Mm-hmm. Si je peux pas la trouver ici, ben je vais la regarder aux États-Unis. Je vais apprendre à parler anglais. Puis je vais la regarder ailleurs. Tu sais, je vais la trouver ma représentation. Je vais la trouver. Puis je l'ai trouvé dans un temps où est-ce que il n'y avait pas tant d'accès à l'information. Mm-hmm. C'était plus difficile, définitivement, c'était difficile. Sauf que je suis allé la chercher ailleurs. C'est dommage pour la culture d'ici, parce que là, je consomme pas de la culture d'ici.
Aujourd'hui encore?
Mes habitudes sont là, sont ancrées. Donc, je consomme beaucoup moins de culture d'ici que de culture d'ailleurs. Puis c'est pas mal tout le monde. Si on regarde des chiffres qui sont sortis l'année passée par rapport à qu'est-ce que les gens écoutaient comme musique, la musique québécoise, la musique francophone, la musique d'ici était très loin dans les sondages. Mm. Je pense que le premier arrivé en 88e position. Je ne pense pas que je me trompe, mais dans ces zones-là. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui se passe, c'est ça qui va arriver. Ça fait mal à la culture, ça fait mal à bien des gens. On ne se voit pas ici, mais on va aller la chercher ailleurs, il n'y a pas de problème.
T'sais. Donc, tu penses que la culture d'ici a moins de succès parce qu'elle n'arrive pas à parler à ceux qui l'écoutent?
100%. Ouais. 100%. La culture d'ici n'arrive pas à parler. C'est même pas une question des jeunes, c'est une question de... Il y a beaucoup de sphères qui ne se font pas représenter, il y a beaucoup de sphères qui vont la regarder ailleurs, tu sais. Puis ça a été comme ça pour toute une génération. Pour ma génération, les gens qui regardaient Fresh Prince of Bel-Air, Hanging with Mr. Cooper ou des trucs aux États-Unis, ben tes habitudes sont là. Mm-hmm. Donc, tu vas aller te tourner plus vers un Netflix qu'une plateforme québécoise. Ça fait qu'à la fin de la journée, c'est la culture québécoise qui souffre.
T'sais. Et alors, pourquoi c'est les États-Unis et pas le Québec qui a plus de diversité dans ces médias? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis?
C'est une question de... Il y a plus de gens. Donc, étant donné qu'il y a plus de gens, il y a beaucoup plus de gens. La population du Canada rentre dans l'État de la Californie. Mm-hmm. Et j'en passe. On peut en trouver des exemples comme ça. Donc, c'est sûr qu'à 333 millions versus... Ben, je peux même pas compter le Canada au complet. Il faut que je compte le Québec et la francophonie. Donc, à peu près 9 millions de personnes, si je compte la francophonie. Un peu moins de 9 millions. Donc, c'est sûr que c'est dur à subvenir aux besoins de... Mm-hmm. Donc, ce qui veut dire qu'aux États-Unis, étant donné qu'il y a plus de gens, ben, ils sont capables d'aller dans un plus niché. Mm-hmm. Si 1% de la population... regarde la télé ou un certain programme ou une chaîne, c'est quand même encore viable qu'un 1% de 8 millions. C'est ce qui se passe, une question de nombre de personnes qu'il y a. T'sais.
Le journaliste Frédéric Toussaint, journaliste montréalais, il parle de médias dinosaures qui, tout simplement, n'arrivent plus à parler à certaines tranches de la population, notamment les minorités. On en revient un peu à ton idée de monsieur, madame, tout le monde qui sont morts, qui n'existent plus. Les médias, aujourd'hui, sont obsolètes pour toi?
C'est pas qu'ils sont obsolètes, c'est qu'encore là, ils parlent à monsieur, madame, tout le monde. Je veux dire, les gens ne réalisent pas qu'on est dans l'époque du niche. Tout est très niché. même pour les humoristes, là, c'est plus vendre des billets à monsieur, madame, tout le monde, là, faire des tournées de 300, 400 000 billets. Là, je pense pas que c'est quelque chose qu'on va voir bientôt. On va avoir plus d'humoristes, on va avoir moins de billets, mais on va s'autoproduire, ce qui fait qu'on va couper beaucoup plus de personnes dans le milieu qui vont gober notre argent. On va être capable de la mettre dans notre poche à nous. Donc, je vais être capable de faire autant d'argent que... Je vais être capable de faire plus d'argent qu'une personne qui va vendre 200 000 billets en vendant 20 000. Mm-hmm. Donc, ces médias-là, mais ils veulent, eux, ils ont très peur du niche. Pour eux, quand ils transfèrent en revenus, ça fait beaucoup moins de personnes. Beaucoup moins de personnes, beaucoup moins de ventes. Ça veut dire que ça fait moins dans notre poche. On ne peut pas subvenir à nos besoins. Peut-être que dans les tranches, dans la façon qu'ils fonctionnent, il y a beaucoup trop de personnes qui se font payer, essentiellement.
Et pourtant, on disait, on te voit à la télévision, à Radio-Canada, Télé-Québec régulièrement.
100%.
C'est un devoir commercial d'image ou tu le fais de bon cœur parce que ça te
plaît? Je le fais de bon cœur, je le fais parce que ça me plaît aussi. Mm-hmm. Je suis pas en train de cracher sur la télévision, absolument. Mm-hmm. Ce que je fais, c'est que je me concentre sur ce que je fais de mieux et ce que je suis capable de faire, ce qui me donne le plus d'exposition, essentiellement. Et de là, les gens voient qu'il y a une certaine expertise ou un truc qui peut attirer des gens. Je veux pas, j'ai un following, donc je peux attirer des gens. Mm-hmm. Et de là, on m'invite. Si on m'invite, si ça me plaît, je vais y aller, il n'y a pas de problème. Sauf que je vois qu'il y a certaines lacunes, définitivement.
En tout cas, on voit que tu observes le monde, les individus, le fonctionnement de la société à travers cette réflexion sur la représentation médiatique et puis sur plein d'autres sujets à travers ta chaîne YouTube ou tes spectacles. Comment toutes ces réflexions politiques, j'ai envie de te dire, t'inspirent dans ta création?
Ben, c'est ce qui se passe tous les jours, hein. C'est ça qui m'inspire, c'est ça que je trouve drôle, c'est ce que je trouve intéressant. Un des travaux d'un humoriste, c'est de se poser la question pourquoi. C'est la question que je me pose le plus souvent. Pourquoi? Pourquoi ça? T'sais, pourquoi c'est drôle? Mm-hmm. Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? T'sais? Donc, c'est sûr qu'il y a plein de trucs cocasses qui se passent dans la vie. Donc, c'est sûr que c'est ça qui est inspirant. Mm-hmm. C'est ça que je vois puis que je suis capable de m'inspirer de faire des... Ce que moi, j'ai pu constater. Donc, c'est vraiment une constatation ludique. Mm-hmm.
Un autre point que tu défends souvent, c'est que nous sommes incapables de communiquer. Tu déplores notamment le manque de nuances et d'écoute dans l'espace public, médiatique, mais aussi privé.
100%.
Quel est le problème que tu décris?
Ben, c'est juste, c'est plus une façon qu'on a été, qu'on a grandi, que les choses nous sont inculquées, c'est que l'information va tellement vite, les trucs vont tellement, on prend l'information. On la discute pas, c'est comme ça, puis on va avec l'information qu'on nous donne. Et ça, à un tout jeune âge, tu sais. À l'école, on te donne l'information, vrai ou faux, ou t'as pas le droit de dire pourquoi. C'est ça qui est ça, mm-hmm. puis tu continues, tu sais. De la même façon que quand tu vas au cégep, puis tu prends un cours de philosophie, ben, il faut que t'écoutes dans ton cours pour dire exactement ce que le prof il dit. Puis ça, c'est weird, parce que ça va à l'encontre de ce que la philosophie est. C'est l'art de penser. Mais là, on te met dans un cadre. Puis, ben ça, c'est l'information. Vas-y, t'as pas le droit de dire pourquoi ou de dire, ben je suis pas d'accord. On a une drôle de société où est-ce que... Les Français, en France, sont très bons pour s'obstiner. OK, ça, c'est leur sport national. argumenter, c'est leur sport national. Je trouve qu'on devrait... Ici, on n'aime pas ça froisser, on n'aime pas ça les... On n'aime pas ça... Tu sais, on a peur que si on débat puis on n'est pas d'accord, on n'est plus amis. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'on n'est pas d'accord. Faut qu'on soit capable de dire qu'on n'est pas d'accord sans briser les amitiés, là. Sauf que c'est un peu dans la façon qu'on voit le débat. Mm-hmm. Tu sais, c'est une question d'éducation, une question de... c'est une question d'éducation, comment on nous a inculqué les choses.
Et c'est la même chose dans les médias, tu réclames plus de diversité d'opinion, de gens qui ne sont pas d'accord pour élever le débat, pour créer du conflit.
100% la diversité, c'est pas juste dans la diversité de genre, la diversité ethno-culturelle, c'est la diversité d'opinion aussi. Je ne veux pas avoir seulement une seule opinion, de peu importe quelle opinion est. Je veux être capable d'avoir des divergences d'opinion, des gens qui sont capables de s'asseoir et de se parler. Mm-hmm. C'est correct de ne pas être d'accord avec moi, on va avoir une discussion. Puis c'est en ayant des discussions qu'on peut évoluer. Mm-hmm. C'est pas seulement donnant l'information que tu crois qui est bonne que les choses vont changer, tu sais.
parmi les gens qui ne sont pas d'accord, il y a aussi les générations. Toi, tu parles d'un clash de générations. Tu dis que des fois, tu as du mal à parler avec ton unité parentale, comme tu dis. C'est grave, ce choc des générations pour toi?
C'est pas grave. Je pense que c'est inévitable. C'est pas grave. C'est juste qu'il faut... on a su s'adapter, évidemment, mais ça, ça a été dur, là. Je veux dire, t'as plusieurs trucs qu'il faut que... plusieurs obstacles qu'il faut que tu passes. Mm-hmm. Le fait de la génération, le fait de ne pas nécessairement être né dans le même pays, eux étant des Haïtiens, moi étant Montréalais, Québécois, d'origine haïtienne, ça fait un clash. Là. Encore là, il faut s'asseoir et il faut être capable de parler. On a eu des clashs, mais si on a eu des clashs, parce qu'on avait eu l'opportunité de parler. C'est pas tout le monde qui a ce privilège-là dans leur unité avec leur unité parentale.
Qui c'est qui vient te voir à tes spectacles? Est-ce que tu arrives à rassembler différentes tranches d'âge?
Ouais, j'ai pas une tranche d'âge. Je pense que... Pas que je plais à tout le monde, parce que ça, c'est pas vrai. Mais j'ai pas... Je pense que les gens qui sont autour de mon âge, là, je pense du 25-35, là, même un petit peu plus haut, là, 40, ouais. 40 un peu et plus... Ouais, c'est pas mal les gens qui viennent me voir. Ouais. Après ça, si on parle ethnoculturel, ben ça c'est très large. Si je parle de différents sujets qui nous touchent.
Ouais. Tu as animé il y a quelques semaines une soirée d'humour contre le profilage racial organisée par la clinique juridique de Saint-Michel. Ça s'est bien passé?
Très bien.
Ouais.
Très bien, c'est très bien.
Il y avait donc un line-up d'humoristes qui sont venus faire des sketchs sur ce sujet dans le but de sensibiliser et de récolter des fonds. Quel impact peut avoir l'humour pour soutenir ce genre de cause?
Ben, c'est une bonne façon de passer un sujet, de passer un message. T'sais. Je veux dire, oui, on parle en drôle, on parle de drôle. C'est pas une façon de dénigrer les affaires, mais c'est juste... Encore là, trouver le drôle dans une certaine situation. Mm-hmm. Hein? Sauf que les gens retournent avec ce message-là à la maison, puis ils sont comme... Ah. Ça plante une graine, tu sais. Ça laisse germer des trucs. Donc, avec le temps, ça peut faire changer des idées. C'est d'attaquer un problème de tous les fronts, toutes les façons sont bonnes. Donc, non seulement de faire... des trucs dans les médias, de faire des réunions, de faire, tu sais, il y a tous ces trucs-là conventionnels, mais l'humour, c'est juste un outil de plus qui peut faire changer les choses.
Ouais. Et justement, tu dis que bien que la cause soit dramatique, tu considères qu'on peut rire de tout. Oui. T'as pas peur des sujets qui ne prêtent pas à rire?
Non. Non. Non, il y a juste une façon de le faire. Mm-hmm. Je crois pas qu'il y a des... qu'on peut pas rire de ça. Ouais, moi, je peux absolument rire de ça. T'sais, l'humour c'est une question de proximité. Hein? Si je vais dans la rue, il y a une vieille dame qui glisse puis qui tombe dans la neige, ça se peut que je rie. T'sais. Si c'est ma grand-mère, ça se peut que je rie aussi parce que je suis cette type de personne-là. Sauf que... t'sais, c'est sûr que je vais aider les deux personnes, mais je vais être capable... d'en rire, tu sais. Après ça, je vais peut-être pas nécessairement en rire tout de suite dans sa face. Des fois, il faut un recul. Mm-hmm. Fait qu'il y a une façon de faire. C'est pas toujours... c'est pas une science exacte. C'est pas nécessairement facile. Mais je pense qu'on peut rire de tout.
Mm-hmm. Au final, tu portes une réflexion autour d'enjeux de société, que ce soit à travers tes entrevues, ton contenu, ta chaîne YouTube. Est-ce que ta carrière d'humoriste est politique? Dans le sens large,
je veux dire, je veux pas la catégoriser de politique. Mm-hmm. Je me spécialise pas en politique parce que je suis pas si intelligent que ça. Mais... Oui.
Je sais pas si c'est la caractéristique principale.
Non, mais je veux dire, je parle de ce qui m'entoure. Fait que, étant donné que la politique nous entoure, ben je vais parler un peu de politique. Mm-hmm. Après ça, j'en fais pas nécessairement un devoir et un but ultime de il faut que ce soit politique comme certaines de mes collègues le font très bien. Moi, c'est juste plus je parle de ce que je trouve drôle. Si ça arrive à être politique, tant mieux. Ouais. Si ce n'est pas, tant mieux. C'est ça.
Tout simplement.
Voilà.
Quelques questions courtes pour finir. YouTube ou la scène?
Ah, faites pas ça, OK?
C'est pas oui ou non. Hein. Tu peux me détailler ta réponse en quelques mots.
Ah, demander de choisir. Je fais la job que je fais parce que je veux justement pas choisir.
Eh bien, voilà.
Parce que mes journées se diffèrent, donc je ne choisirai pas.
Eh bien, c'est parfait, j'accepte. Ton comedy club préféré, si tu arrives à choisir, mais tu as le droit à en donner deux ou trois si c'est trop compliqué.
Ben là, c'est parce que je suis biaisé.
Ouais, en effet, t'as un bonnet à l'effigie de ton comedy club préféré.
Exactement. Du bordel comédie club, c'est sûr que c'est la place où je suis né, tu sais. Mm-hmm. C'est sûr que ma mère, elle n'aime pas ça quand je dis que je suis né dans un bordel, mais essentiellement, c'est pas mal ça. Le bordel comédie club, c'est une de mes places favorites, ouais.
Tu te vois où dans 10 ans?
Vivant, j'espère.
Ouais, c'est pas mal.
Ah ouais, ouais, j'ai pas comment... Ah, les gros plans, là, de je me vois ici, puis là, je veux juste faire des affaires que j'aime, puis continuer à payer mes factures. Là.
Oui, c'est important. Une humoriste ou un humoriste que tu aimes suivre en ce moment?
Andrew Schultz, encore là aux États-Unis, désolé les amis. Mais Andrew Schultz, c'est un gars que j'aime beaucoup. C'est un gars que j'ai invité à mon show en 2019, à notre show en 2019 sur la place du festival. Mm-hmm. Puis après ça, on a gardé contact et cette personne-là va très, 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 très bien dans sa carrière. Sinon, ici, des personnes comme Simon Gouache, des gens comme Mathieu Pepper, des gens comme Mélanie Couture. Il y a plein de gens ici, mm-hmm. par contre, que j'apprécie beaucoup, des gens comme Eddie King, donc que je suis. Il y a la relève aussi, les gens mm-hmm. les plus jeunes, les Charles Brunet, très drôle, Anna Sasuna, il y a plein de monde comme ça, Mi Benson, Sylvain, Eric Sonalismé. Il y en a plein, il y en a tellement plein ici.
Très bien,
tellement,
ouais. On prend note. Et pour finir, une ressource culturelle à nous conseiller, une chanson, un livre, un film, quelque chose qui t'a marqué et que tu aimerais nous partager?
Hey man, shameless plug. Je parlais de mon podcast, Les Fallops.
Ben voilà.
Voilà, j'ai un podcast qui s'appelle Les Fallops. On parle de sexualité, évidemment, avec un brin d'humour, parce qu'on peut rire de tout.
Exactement.
Et évidemment aussi, on est dans l'information. Là, on est très dans l'information, dans l'informatif, et de briser les tabous.
Merci
donc, voilà.
pour la ressource. Merci beaucoup, Eric, d'être passé jaser à notre micro. On peut retrouver ta chaîne YouTube, Abba & Preach.
Oui.
Et puis ce soir, 18h.
18h, Saint-Germain, oui. Exactement, Saint-Germain, Grand Tam, si jamais vous êtes dans le coin.
Parfait, c'est voilà. noté. Merci beaucoup, Eric, et bonne plaisir. Journée. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Marianne Perron de l'OSM.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Tous les mercredis à 8h, soyez des nôtres à l'antenne de CIBL pour l'émission À la croisée des toits en compagnie de Richard Ryan et Sébastien Parent-Durand qui couvre avec vous tous les angles de solutions possibles à la crise du logement.
Tout sur la littérature.
Cette forme-là parlait d'une certaine manière du fond que je voulais explorer.
Et ça va générer chez lui une réelle angoisse.
Une série nouvelle qui s'appelle Le Projet P.
Le personnage de Marion, par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente aux yeux des autres.
Avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion mardi 11h30. CIBL, au cœur de la littérature.
Québec en musique présente notre histoire musicale complète de ses débuts à aujourd'hui. Ce sont nos artisans, nos auteurs, compositeurs et interprètes qui ont tracé la voie et créé cette musicalité unique au Québec, sans oublier l'émergence de nouveaux créateurs qui constituent l'ADN de Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal.
101.5.
Je reçois à présent Marianne Perron, directrice du secteur artistique de l'Orchestre symphonique de Montréal. Bonjour Marianne.
Bonjour.
On va revenir sur la programmation de l'OSM pour le mois à venir, mais avant ça, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi consiste votre mandat, votre travail de directrice du secteur artistique?
Oui, avec plaisir. Alors, le secteur artistique est composé d'un certain nombre de départements qui se consacrent vraiment à l'élaboration et la conception et la réalisation du produit, en fait. Mm-hmm. Donc, on parle de programmation, d'éducation communauté, production, projets spéciaux, tournées, enregistrements, etc. Donc, évidemment, le personnel musicien. Donc, mon rôle est d'intervenir au niveau de la conception de nos saisons avec une équipe formidablement compétente, mm-hmm. dévouée et engagée, des musiciens extraordinaires. Voilà.
Et on se lance directement dans cette programmation que vous élaborez avec tout d'abord cette fin de semaine. Samedi, l'OSM va présenter le Bal des enfants avec les aventures de Tio Tigre et Tio Conejo. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu l'événement?
Oui, absolument. Alors, déjà, peut-être il faut savoir que depuis la création de l'Orchestre symphonique de Montréal, la mission éducative, les productions jeunes publics ont vraiment été à la base, en fait, qui font partie de l'ADN hein, de l'orchestre. Et puis, déjà, dans les années 30, on présentait des concerts spécialement conçus pour les enfants, pour la famille. Alors, c'est une tradition qui ne s'est pas perdue. Donc, c'était principalement donc, des concerts pour les écoles, pour la famille. Et depuis, il y a quelques années, on a ajouté une production pour la famille qui est le Bal des enfants. Donc, avec tout l'orchestre, des comédiens, un accueil particulier. C'est une levée de fonds également qui nous permet donc de recueillir des fonds, notamment pour nos activités de démocratisation, d'accessibilité à la musique pour tous. Alors, ce concert, ça va être un très, très, très beau concert. On est vraiment content de le présenter. Mm-hmm. C'est conçu, donc, il est conçu par notre formidable équipe d'éducation. Avec Raphaël Payaré également, qui est notre directeur musical. Et il s'agit d'une histoire vénézuélienne. Et donc, on plonge les spectateurs dans un univers latin, tant au niveau de l'histoire, des comédiens, Ariana, Pirella Sanchez et Victor Andrés Trelles Sturgeon. Donc, dans un univers latin, avec l'histoire, les comédiens et puis la musique, bien sûr, parce que, ben voilà, on entendra la musique de Villa-Lobos, Ginastera, Carreño, Romero, etc.
Voilà. Le public visé, c'est des enfants de 5 à 12 ans.
Oui.
Comment on conçoit un spectacle à destination de ce genre de public? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut penser, auxquelles on ne pense pas forcément quand c'est des adultes qui viennent assister au spectacle?
Oui, en fait, c'est une excellente question. Bon, généralement, nos concerts conçus pour ce groupe d'âge-là déjà durent, je dirais, entre 50 et 60 minutes. Donc, évidemment, les concepteurs de ces concerts doivent prendre en considération la capacité d'écoute, hein, d'attention des jeunes, qui n'est pas toujours moins longue que celle des adultes. Mais en fait, c'est un élément. Donc, le rythme du concert, les interventions dramatiques, l'animation, le visuel. Alors, tous ces éléments-là, donc on parle d'un concert, mais il y a plusieurs éléments théâtraux qui sont intégrés. Donc, oui, effectivement, c'est adapté. Puis on a la chance de travailler avec des gens qui sont très, très, très expérimentés, notamment Mélanie Moura, qui a une grande expérience dans la conception des concerts jeunes publics.
Le conte pour enfants que vous allez interpréter est vénézuélien, c'est ça, comme votre directeur musical, je crois.
Oui.
Est-ce qu'il a joué une influence dans ce choix?
Ben, en fait, c'est une bonne question. Je pense que l'équipe, à un certain moment, parce que bon, ça fait partie des concerts qu'on conçoit, je dirais, à chaque année. Et je crois qu'effectivement, le fait que Raphaël Payaré soit vénézuélien, ça a certainement inspiré mes collègues pour à un certain moment aller chercher un conte qui vient de l'Amérique latine. Et puis aussi, c'est une opportunité pour nous de faire découvrir des musiques et des cultures qui sont peut-être un petit peu moins présentes dans notre programmation. Et on sait que déjà, Raphaël Payaré, dans le cadre de ses concerts, je dirais, réguliers, grand public, là, pas nécessairement conçus pour le jeune public, ben, c'est un répertoire qu'il a envie d'intégrer. C'est un répertoire extrêmement riche qui est malheureusement... qui n'est pas assez connu. Mm-hmm. Alors, donc, ça fait également partie de la mission de l'orchestre de faire découvrir des nouveaux répertoires. Et là, ben, je crois qu'on avait une opportunité formidable
de pouvoir le faire. On est en plein dedans. Ouais. Donc, ça se passe ce samedi, c'est le bal des enfants de l'OSM. Mm-hmm. Exactement. Ensuite, on passe au 19 mars parce que l'OSM reçoit l'Orchestre de Paris. En quoi va consister l'événement, le concert?
Le concert. Alors, déjà depuis plusieurs années, surtout depuis qu'on est dans notre résidence, la Maison Symphonique, donc depuis 2011, il nous est arrivé d'accueillir des orchestres importants dans le monde symphonique. Alors, on a eu l'occasion d'accueillir, par exemple, l'Orchestre de Boston, l'Orchestre de New York, l'Orchestre de Los Angeles. Et il y a 2 ans environ, on a été informé que l'Orchestre de Paris, dans le cadre de sa tournée nord-américaine, parce qu'ils s'arrêtent également à Boston et à New York, avait envie de s'arrêter à Montréal. Et puis, nous, on s'est dit que c'était une formidable opportunité de faire découvrir cet orchestre à notre communauté. Donc, c'est un orchestre qui n'était pas venu en Amérique du Nord depuis une vingtaine d'années. Donc, ils viennent avec leur nouveau directeur musical, Klaus Mäkelä, un jeune chef finlandais, et puis le lauréat d'un concours américain de piano, le concours Van Cliburn, donc le pianiste coréen Yoon Cham Lim. Alors, et je trouve que c'est intéressant de pouvoir entendre des orchestres différents, parce qu'on se rend bien compte aussi que chaque orchestre a sa personnalité, chaque orchestre a sa couleur. Mmh. Alors, je pense qu'un public qui s'intéresse à la musique symphonique pourrait être curieux, justement, d'entendre un autre excellent orchestre comme celui de Paris.
La pièce maîtresse de ce concert, ça va être un concerto pour piano de Rachmaninoff, c'est ça?
Il y a effectivement le concerto pour numéro 2 de Rachmaninoff qui sera joué par Yoon Cham Lim, mais il y aura également 2 pièces orchestrales qui sont bien connues de notre public parce que ce sont des pièces que l'OSM joue sur une base régulière et puis auxquelles on associe notre orchestre également. Donc, il y a le prélude de l'après-midi d'un fond de Debussy et puis l'oiseau de feu de Stravinsky. Et justement, il y a quelque temps, assez récemment, l'Orchestre de Paris avait enregistré cette œuvre sur Decca. Alors, les gens qui sont curieux pourront déjà aller l'entendre. Mais je crois que c'est un magnifique programme pour vraiment découvrir cet orchestre français.
On pourrait penser au contraire que c'est dommage que l'Orchestre de Paris joue des œuvres que vous interprétez déjà. Mais pour vous, vous avez commencé à le dire, c'est une force de voir un peu les différences entre ces deux orchestres.
Ben oui, absolument. Et puis, écoutez, l'Orchestre de Paris est un orchestre qui se distingue évidemment par l'interprétation de plusieurs répertoires. Mmh. Mais effectivement, le répertoire russe et français est un répertoire qu'ils vont interpréter magnifiquement bien. Alors, je crois que ce sera certainement un très, très beau concert.
C'est noté. Donc, pour la réception de l'Orchestre de Paris le 19 mars à la Maison Symphonique, on enchaîne avec le 23-24 mars, une fin de semaine dédiée au grand orgue Pierre Béhic pour souligner les 10 ans de cet instrument.
Oui, alors ça, c'est... Vous savez, quand on pense à l'Orchestre symphonique de Montréal, évidemment, on pense à cet orchestre. Mm-hmm. Mais en fait, on dit souvent qu'on a un deuxième orchestre parce que l'orgue Pierre Béhic est un magnifique instrument aux multiples possibilités. C'est un instrument qui a été conçu par le facteur Casavant, un facteur québécois, suite à un concours international. Et puis, il compte 6500 tuyaux. Mm-hmm. Alors, pour ceux qui sont déjà venus à la Maison symphonique, on ne voit pas comme ça devant nous 6500 tuyaux. On en voit quelques-uns, mais la plupart des tuyaux sont vraiment derrière le mur et puis répartis sur près de 4 étages. Alors, c'est vraiment une orgue extraordinaire qui a été donc inaugurée il y a 10 ans. Qui a été conçu grâce aux dons généreux de Mme Jacqueline Desmarais. Alors, donc, on a envie de souligner ce 10e anniversaire avec un certain nombre d'événements pendant la saison, mais également un week-end tout spécial, le Printemps de l'Orgue, lors duquel les gens ont accès à 4 concerts extrêmement différents, mais également des ateliers, des conférences. Ils pourront essayer un orgue qui s'appelle la BAC Mobile, qui a été conçu par le Concours international d'orgue du Canada. Alors, voilà, il y a plusieurs choses qui se passent.
Et parmi la programmation riche de ce week-end, il y aura la projection du film The Immigrant de Charlie Chaplin, accompagné par Thomas Hospital, un organiste spécialisé dans l'accompagnement de films muets. Déjà, je ne savais pas que c'était une des spécialisations des organistes.
Oui, en fait, le week-end a été conçu de façon à pouvoir véritablement découvrir l'orgue, mais dans les différentes facettes qu'on associe à l'orgue. Alors, d'une part, l'orgue a eu longtemps et a toujours un rôle au niveau de l'improvisation extrêmement important. Et dans plusieurs salles dans le monde, notamment aux États-Unis, il y avait des salles de cinéma dans lesquelles il y avait des orgues. Et donc, c'était des films muets qui étaient accompagnés à l'orgue. Donc, lors de ce concert, c'est un élément qui est intéressant, effectivement. Donc, c'est le 23 mars à 19h30. Il y aura un film de Charlie Chaplin, mais il y aura également des films de McLaren, notamment Les Voisins. On a également une collaboration avec Kino, qui a invité des réalisateurs à concevoir des films spécialement pour cet événement. Donc, l'organiste Thomas Hospital improvisera pour accompagner ces films. Oui.
Est-ce que, à travers cette projection, ces projections, vous cherchez aussi à attirer un public moins adepte des concerts classiques symphoniques?
Ben, en fait, je dirais, je le présenterais plutôt dans le sens où ce week-end permet de vivre une expérience extrêmement différente d'un concert à l'autre. Alors, effectivement, les gens qui ne connaîtraient peut-être pas l'orgue, mais auraient un intérêt pour Chaplin ou Norman McLaren, ben, pourraient vraiment trouver un intérêt très, très fort à ce film. Aussi, par exemple, je pense à un autre concert, le 24 mars à 11h, Les Planètes de Holst. Donc, Les Planètes de Holst, c'est une œuvre très connue et populaire au niveau orchestral qu'on a joué en début de saison. Et ici, on a une autre version pour 14 musiciens, donc orgue, cuivre, percussion. Donc, des gens qui, encore là, peut-être ne connaissent pas nécessairement l'orgue énormément, mais sont intéressés par la pièce ou par les cuivres, peuvent découvrir l'instrument à la salle d'une autre façon. Alors, donc ça, c'est 2 des 4 concerts. Est-ce que j'ai le temps de parler un petit peu des deux autres?
Allez-y, ça donne envie, je vous permets.
Alors, on a une scène musicale extrêmement dynamique à Montréal avec des jeunes musiciens, des musiciens émergents qui sont très, très forts. Et plusieurs se retrouvent dans un orchestre des jeunes de Montréal sous la direction de Louis Lavigueur. C'est un orchestre qu'on suit avec intérêt depuis plusieurs années. Plusieurs musiciens même de notre orchestre. Moi-même, j'ai joué dans cet orchestre. Alors, je sais que c'est un orchestre qui est formidable. Alors, on a eu envie de les inviter à participer à ce week-end. Et puis, et là encore, au niveau du répertoire, c'est un répertoire important, le répertoire pour orgue et orchestre. Alors, il y a tout un programme qui a été conçu. Et là, c'est l'organiste Maria Gairay qui sera l'organiste pour ce concert. Alors, il y a des œuvres de Bach, de Vierne. Donc, là aussi, c'est une façon qui complémente bien le reste du week-end pour découvrir l'orgue. Puis évidemment, l'orgue, on peut aussi assister simplement à un récital, un orgue, un récitaliste, un organiste seul. Et là, c'est Ken Cohen pour clôturer ce festival le 24 à 14h30 qui interprétera, je dirais, quelques œuvres incontournables du répertoire. Alors là, par exemple, si on se disait, moi, je ne connais pas l'orgue, j'aimerais bien assister à un récital, puis connaître un petit peu les œuvres, comme on dirait peut-être que la 5e symphonie de Beethoven à l'orchestre, tout ça, je dirais que c'est un récital qui est formidable pour ça, parce que là, il y aura des œuvres de Vidor, Messiaen, Mendelssohn, Bach, Elgar, et aussi une étude caprice de Rachel Lorrain, qui est une organiste canadienne, compositrice également, qui nous a quittés l'année dernière. Alors, donc, on ne pouvait pas faire ce week-end d'orgue sans intégrer sans voir la présence de Rachel Lorrain à travers sa musique.
C'est un week-end en apothéose pour cet orgue qui on rend hommage de différentes façons. Voilà pour la programmation pour mars. Je me permets de faire un saut dans le temps pour parler de cet automne, avec quand même une tournée d'envergure en Europe. Vous allez passer par Paris, Londres, Amsterdam, Berlin, Vienne. Quel est le but d'une telle tournée pour l'OSM?
C'est une excellente question. L'OSM effectue des tournées depuis surtout les années 60. Hein. On est allé vraiment partout dans le monde. Et puis, la tournée... Il y a plusieurs objectifs avec une tournée. Je dirais, d'une part, c'est de faire... rayonner, oui, l'orchestre, mais rayonner Montréal, le Québec, le Canada. Donc, l'OSM est un ambassadeur culturel de notre ville, notamment. Et puis, c'est ainsi que presque à chaque année, on effectue des tournées en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. Donc, il y a une grande tradition de tournées. Donc, depuis l'arrivée de notre directeur musical, Raphaël Payaré, l'orchestre a rapidement été invité en Corée, en Europe, notamment. Et puis là, on retourne en Europe. Puis on est allé à Carnegie Hall aussi. Alors là, on retourne en Europe, effectivement, cet automne. Et je dirais que c'est un peu une tournée de rêve parce que, d'une part, on a eu l'opportunité, l'honneur d'être invité dans les plus grandes salles. Effectivement, Amsterdam, Londres, etc. Donc, c'est une tournée de rêve. C'est également une tournée lors de laquelle on va pouvoir présenter des grandes œuvres du répertoire, la Symphonie fantastique de Berlioz, qui est une œuvre assez emblématique de l'histoire de l'OSM. Également, la Symphonie alpestre de Richard Strauss. Donc, deux grandes œuvres symphoniques extrêmement riches. Et puis, il y aura une œuvre canadienne d'un compositeur irano-canadien, Abibi, qui sera là. Puis, on a la chance également d'être accompagné par un des plus grands pianistes de l'heure, donc Daniil Trifonov pour Concerto de Schumann et Beethoven. Mais je disais qu'il y avait plusieurs éléments par rapport à une tournée. Il y a cet élément-là de rayonnement qui est important, de grande fierté pour nous aussi. Et puis, évidemment, de vivre de façon intense les musiciens, l'équipe. C'est toujours un peu ce qu'on appelle du team building. Donc, c'est des moments intenses qui marquent, qui ponctuent une saison, qui ponctuent une vie musicale également. Alors, on en ressort toujours extrêmement enrichi, je dirais.
On invite nos auditeurs, auditrices de Montréal et d'Outre-mer à aller consulter la programmation de l'OSM. Merci beaucoup, Marianne, pour cette démonstration. Et puis, on retrouve toutes les informations sur osm.ca.
Merci beaucoup pour cette invitation.
Avec plaisir. Et puis, bonne continuation avec l'OSM.
Merci.
On se quitte avec le Sacre du printemps de Stravinsky. C'est le moment à présent de la chronique des carrefours jeunesse-emploi et nous recevons ce matin celui d'Aunstick Bordeaux-Quartier-Ville avec Stéphanie Després, conseillère en développement de l'employabilité. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Charline, merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer votre mandat au sein du CJE?
Donc en fait, je suis conseillère en développement de l'employabilité au CJE, Carrefour Jeunesse-Emploi. On est situé à côté du métro Henri Bourassa, sur la rue de la Jeunesse. Depuis à peu près, je suis arrivée en 1er juillet 2023. En fait, mon mandat principal, c'est d'aider nos jeunes participants de 15 à 35 ans dans la recherche d'emploi, dans tout le contexte qui englobe la recherche d'emploi, à commencer par la création du CV, la manière de faire le CV, jusqu'à la simulation d'entrevue et voilà, tout le processus qui englobera du coup la recherche d'emploi pour que le participant puisse aisément réintégrer ou intégrer le marché de travail.
L'employabilité, c'est souvent un thème qui revient à travers la chronique des CJE. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit rappel malgré tout de ce que c'est ?
L'employabilité, voilà, c'est ce que je dis à chaque fois à tous mes participants. Ça fait quand même des années que je travaille là-dedans parce qu'avant le CJE, j'étais dans un autre organisme. L'employabilité, c'est un métier à plein temps, le fait de chercher un emploi, parce que ça ne se fait pas comme ça. Il y a énormément d'étapes à suivre. Il y a une manière de faire les choses. Et du coup, l'employabilité, c'est vraiment... excusez-moi, c'est vraiment un gros challenge, en fait, pour le participant, que ce soit à l'âge de 15 ans, parce qu'on a beaucoup d'étudiants du secondaire, jusqu'à l'âge de 30, 40, 50 ans, peu importe. L'employabilité, c'est vraiment la recherche concrète de l'emploi et la manière de faire les choses vraiment le mieux possible, sachant que moi, personnellement, je reçois quand même pas mal d'immigrants. Et donc, le système de travail, d'employabilité dans un autre pays d'origine n'est pas forcément le même qu'ici au Québec. Donc, il faut reprendre toutes les démarches et comprendre la manière de faire ces démarches. Voilà. Donc, pour moi, l'employabilité, c'est ça. C'est vraiment, c'est aider le participant lambda à intégrer le plus facilement possible le marché du travail et à comprendre les ficelles, justement, les coulisses de ce gros défi.
Eh bien, c'est compris pour l'employabilité. Merci. Et aujourd'hui, vous nous présentez un projet que vous avez développé en partenariat avec La Corbeille, qui est une entreprise d'insertion socio-professionnelle. Absolument. En quoi consiste cette collaboration ?
Donc, en fait, alors, La Corbeille, moi, je connais cet organisme depuis quelques années. J'ai travaillé beaucoup avec Marie-Josée Bilodeau, qui est la responsable de l'insertion socio-professionnelle. La Corbeille, de base, c'est un organisme qui propose des formations pour des personnes qui sont éloignées du marché du travail, donc majoritairement des nouveaux arrivants, il y en a vraiment beaucoup, qui souhaitent, comme j'ai expliqué juste avant, intégrer le marché du travail québécois, qui n'est pas forcément le même que dans leur pays d'origine. Donc, La Corbeille propose à ce moment-là des formations, donc présentement il y en a trois. Il y a préposé au service à la clientèle, aide cuisinière et commis à l'épicerie. Donc, en fait, ce sont des personnes qui vont pendant 6 mois, c'est une entrée continue dans cet organisme, pendant 6 mois, ils vont apprendre le métier de la formation qu'ils ont choisi, avec en plus la recherche d'emploi en tant que telle. Et c'est là où je suis intervenue, du coup, pendant 8 semaines. Chaque lundi après-midi, j'avais un atelier différent avec un module différent pendant 8 semaines, donc de mi-octobre jusqu'à mi-décembre, pour permettre aux participants, en plus d'avoir ce cursus formatif, donc d'apprendre les techniques du métier, d'avoir le système, les démarches de recherche d'emploi avec quelqu'un d'extérieur, donc moi, en l'occurrence, conseillère en emploi, pour justement leur apprendre, comme j'ai dit avant, les ficelles de l'employabilité et les aider à intégrer plus facilement le marché du travail. Donc, en fait, ils ont tout un cursus qui mêle la technique, le concret, Le psychologique également, parce qu'ils sont suivis vraiment pendant 6 mois jusqu'au bout. Et je rajoute qu'ils sont rémunérés. Mmh. Ils ont le salaire minimum, 35 heures par semaine. Donc, ça leur permet d'être vraiment déjà un pied dans l'employabilité, de comprendre la vie active, finalement. Et en même temps, voilà, moi, je suis intervenue avec mes ateliers au niveau de la méthode dynamique de recherche d'emploi.
Justement, vous parlez de cette méthode dynamique de recherche d'emploi. Quelles sont ces étapes ?
Alors, les étapes, en fait, sur 8 semaines, on a élaboré avec Marie-Josée 6 ateliers. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 ateliers qui étaient sur 2 sessions. Il y avait donc comme premier atelier tout ce qui était l'information sur le marché du travail, sachant que c'est un contexte qui change beaucoup, qui évolue beaucoup, il y a énormément de ressources cachées. C'est pour ça que je suis intervenue sur 2 sessions au niveau de l'information du marché du travail, parce que le marché du travail ici au Québec est sur 2 modules, le marché ouvert, le marché caché. Mmh. Donc moi, mon rôle, c'était de leur expliquer où chercher, dans un premier temps, les offres d'emploi et de comprendre le système salarial, voilà, qu'ils puissent avoir une idée de ce qui les attend finalement. Donc ça, sur 2 sessions, information sur le marché du travail, avec à l'appui, évidemment, un PowerPoint et des ressources au niveau des sites web, parce qu'il y a beaucoup de sites web qui proposent justement ce genre d'informations. Mmh. Ensuite, on avait... Alors, c'était un petit peu plus intrinsèque dans la mesure où le 2e module, c'était la connaissance de soi, parce qu'on estime que dans l'employabilité, la première chose à faire, c'est de se connaître. Si on ne se connaît pas et si on ne sait pas où chercher et comment chercher, ça bloque déjà d'entrée. Donc, du coup, connaissance de soi, se sensibiliser sur l'importance de la connaissance de soi en vue de la recherche d'emploi, comprendre ses valeurs professionnelles, comprendre ses valeurs interpersonnelles, ses qualités. Donc, tout ça, en fait, c'était aussi avec des exercices, des mises en situation et le PowerPoint, évidemment, de la corbeille.
Tous ces paramètres-là, on n'y pense pas forcément quand on recherche de l'emploi, la tout connaissance de soi. Et pourtant, c'est des choses qui sont importantes, j'imagine.
Absolument. C'est pour ça que je dis que c'est un métier à plein temps. Mm-hmm. Parce qu'il faut absolument prendre conscience des enjeux qu'on rencontre de manière générale dans l'employabilité et les enjeux qu'on rencontre personnellement également. Donc, excusez-moi. Donc, c'est vraiment des facteurs à prendre en compte, différents facteurs. Mm-hmm. Du coup, la connaissance de soi, c'est vraiment une étape cruciale au niveau de la recherche d'emploi, clairement.
Comment se déroulait un atelier type en général ?
Alors en fait, déjà, c'est sûr qu'en 8 semaines, on crée des liens avec les participants. Moi, j'ai adoré cette expérience parce que j'ai créé des liens avec eux. Au fur et à mesure que je faisais mes ateliers, ils avaient confiance en moi. Donc, ils venaient me voir au début, au milieu, pendant la pause, même à la fin. Donc, en fait, c'était en début d'atelier un petit récapitulatif de ce que j'avais fait la semaine d'avant, le lundi précédent. Et ensuite, en général, j'avais un PowerPoint, mais moi, je privilégie beaucoup les interactions avec les participants. Donc, je leur disais, je peux stopper à n'importe quel moment le PowerPoint et répondre à vos questions. Donc, du coup, ça se passait dans un climat convivial, je vais même dire familial, entre guillemets. Voilà, donc PowerPoint, simulation, exercice, quiz, beaucoup de quiz et beaucoup de questions.
Très bien.
Voilà, ça, c'était vraiment un atelier.
Et alors, est-ce que ça marche, ce fonctionnement ? Qu'est-ce que vous pensez que les participants ont retenu de ces 8 semaines d'activité, d'atelier ?
Alors, ça marche très bien parce que, d'entrée, en créant ce lien, on fait en sorte que le participant est beaucoup plus à l'aise avec ce que je vais présenter. Donc, je sais qu'ils étaient vraiment, ils n'étaient pas du tout gênés de me demander quoi que ce soit, vraiment au niveau de tout, des CV, au niveau des entrevues, la manière de se comporter, partager leurs expériences négatives, parce qu'il y en a eu certaines personnes qui ont eu des expériences quand même négatives ou, je veux dire, qui n'ont pas porté fruit. Donc, je sais que le retour que j'ai eu par la suite au niveau de ces ateliers-là, c'est que clairement, les participants connaissaient vraiment beaucoup mieux le système de travail et se sentaient beaucoup plus à l'aise et prêts à franchir justement l'étape de la recherche d'emploi, parce que c'est sûr qu'à la corbeille, ils sont dans un cocon. Pendant 6 mois, ils sont encadrés. C'est une équipe vraiment au top. Sincèrement, l'équipe de la corbeille, ce sont tous des professionnels. Les participants entre eux s'entendent très, très bien, ce qui fait que pendant 6 mois, on ne pense pas forcément à ce qui va se passer ensuite, parce qu'ils sont choyés, ils sont en même temps encadrés, ils sont quand même, je veux dire, bien cadrés. Et du coup, moi, j'étais là, si vous voulez, pour leur rappeler que la formation ne dure pas ad vitam aeternam et qu'un jour, il va falloir mettre le pied dans la vie active et dans l'employabilité en tant que telle.
Et se lancer grâce à tous vos conseils.
Je pense sincèrement, c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas à la fin des 8 semaines, que vraiment, ça les a beaucoup aidés. Il y en a qui m'ont contactée par la suite pour X ou Y raison, hein, en fait, pour le CV, pour n'importe quoi. Je leur avais dit que j'étais évidemment disponible pour eux. Donc, je pense que ça les a quand même vraiment aidés pour se comprendre soi-même et comprendre, comme j'ai dit avant, les enjeux qu'ils vont connaître en sortant de cette formation-là.
Merci beaucoup, Stéphanie, d'être venue nous parler de ce projet. Une petite ressource pour celles et ceux qui seraient intéressés par les activités du CGE. On retrouve tout sur votre site internet.
Absolument, CGE-abc.qc.ca. C'est notre site web. On est une équipe au top.
Ça
Je sais qu'ils m'écoutent tous maintenant. Je leur fais un grand coucou. Voilà, on est des professionnels. Effectivement, on est une équipe soudée. Et on a moultes activités pour les jeunes de 15 à 35 ans qui souhaiteraient se développer dans l'employabilité, dans la recherche d'emploi et dans d'autres projets en parallèle qu'on a aussi évidemment avec le CGE.
Et se connaître soi-même aussi.
Très important. J'y tiens, ça me tient à cœur. Franchement, ce côté-là est vraiment très important si on veut réussir quoi que ce soit.
Très bien. Merci beaucoup, Stéphanie. Et puis bonne
avec
continuation
plaisir,
avec Charline.
Merci de m'avoir accueillie.
On continue
sur
CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités, nos chroniqueurs, chroniqueuses du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain à 8h, c'est la rediffusion des meilleures entrevues de la semaine. Et puis, on retourne lundi avec une émission en direct avec nos chroniqueurs chevronnés et nos invités passionnants. Alors, restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme. Et n'oubliez pas que l'émission est comme d'habitude, disponible en balado et sur les plateformes et sur notre site web. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à lundi pour une prochaine émission en direct.
Le Cowboy Urbain. Tous les jeudis de 16 à 18 heures.
Les heures de pointe, tu trouves ça normal?
Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country.
Dans les cons d'orange toute la semaine.
Je vous propose des entrevues, des performances et des grands classiques. Jeudi de 16 à 18 heures sur les ondes de CIBL.
Le quatrième mur.
Bon, Siri, c'est quoi, mettons, là, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h?
Le quatrième mur.
CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Salut à tous et à toutes. Bienvenue à Point de vue, votre regard sur l'actualité locale au pays. Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure.